marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
D'Annunzio, le poète armé.
Les jeunes gens qui avaient eu 20 ans en 1900 croyaient à l'amour libre, à l'antimilitarisme, aux idées sociales et pacifistes, à l'abolition de la peine de mort, à l'internationalisme. En 1913, l'enthousiasme a tourné, c'est vers la patrie qu'il regarde et un peu moins vers l'humanité. Un autre état d'esprit, plus réaliste, plus sportif, plus combatif, plus dévoué au devoir patriotique, à la reconstitution civique, ose se montrer chez bon nombre d'élèves des grandes écoles.
Pourquoi cette jeunesse, plutôt que d'élire ces mots d'individualisme, d'art, de vie qui avaient exalté leurs aînés, leur préférait-elle ceux d'ordre et de discipline? La sensibilité juvénile avait-elle tant changé qu'on la trouva tournée contre ce qui semblait être ses instincts? Le propre de la jeunesse n'est-il pas au contraire de s'effrayer, de s'ébattre, de ne songer qu'à soi et de développer sans contrainte toutes ses puissances? Or, les vertus que celle-ci recherchait étaient bien plutôt des vertus restrictives.
Tout au long du XXe siècle, la fièvre de la guerre a parcouru une partie de la jeunesse intellectuelle et artistique européenne. Une enquête menée par Agathon, un pseudonyme d'Henri Massis qu'on vient d'entendre, en témoigne dès 1913. Et l'épreuve du premier conflit mondial ne suffira pas à empêcher que se lève ensuite une nouvelle génération qui jugera naturel de s'armer, avec des mots d'abord et des fusils ensuite. Les occasions de mourir crânement ne lui manqueront pas dès les guerres d'Éthiopie et d'Espagne en 1935-1936. C'est d'une partie de la jeunesse seulement qu'il sera question aujourd'hui. Une jeunesse qui se veut hors du commun. La patrie, telle que l'envisagent ces esthètes, ce n'est pas en effet une terre protégée par d'anciens parapets, comme disait Rimbaud. C'est bien plutôt un compagnonnage de jeunes hommes verts qui dévisagent calmement la mort. Si on veut toujours avoir 20 ans, mieux vaut mourir à 20 ans. Depuis la première jusqu'à l'aube de la Deuxième Guerre, une figure de poète armé sert de référence à cette jeunesse. Malraux disait « Je voudrais être comme lui ». Il s'appelle Gabriele D'Annunzio, homme de lettres magnifique. Il va devenir le commandante, s'improvisant en 1919-1920 à Fiume sur l'Adriatique, chef d'un micro-État qu'il a conquis, tel Garibaldi, au nom de l'Italie. Les esthètes armés rêvent souvent d'établir un paradis à l'ombre de leurs épées. L'aventure de Fiume ne servira pas à grand-chose, sinon à favoriser les intérêts politiques de Mussolini. D'Annunzio finira d'ailleurs en 1938, enfermé par le Duce dans un rôle de précurseur du fascisme. Malraux a choisi un autre chemin. Il suffit souvent d'un moment de nuance et les esthètes armés peuvent changer de pente.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Maurizio Serra, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Représentant permanent de l'Italie à l'ONU à Genève, diplomate italien, écrivain. Alors comme il est naturel, un diplomate, vous avez été élevé en anglais, en italien.
En français.
Et bien. Vous écrivez très souvent en français.
J'essaie en tout cas.
Une grande trilogie, Svevo, Malaparte, D'Annunzio, chez Grasset, et puis aussi un livre qui s'appelle « Une génération perdue », un peu plus ancien, aux éditions du Seuil, où vous essayez de définir, tout au long du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, la permanence d'un groupe hétérogène, comment dire, d'esthètes guerriers.
Oui, alors, l'esthète, certainement, cela va sans dire. Guerrier, il faut le prendre, je pense, au sens large, c'est-à-dire essentiellement de subversion de l'ordre bourgeois, de l'ordre établi, pas nécessairement au sens révolutionnaire bolchevique, qui certainement à ce moment-là a une grande cote en Europe, mais du point de vue du retour à la beauté, du retour à ce qui est pérenne, à ce qui n'est pas effaçable, qui n'est pas périssable dans l'homme. Je pense qu'il y a essentiellement deux générations qui passent par la déferlante de 14-18. Alors la génération de D'Annunzio, qui a quand même 50 ans au moment de la Grande Guerre, qu'il fait d'un bout à l'autre, trois ans et demi, est une génération qui a donc connu les tranchées et qui, avec les tranchées, a connu les horreurs des tranchées. Et à côté de cela, il y a les désaxés de l'histoire, la génération qui vient après, qui ont 20 ans dans les années 30 et qui ont raté la grande épreuve de la guerre et donc qui restent dans un sorte de bellicisme fantastique par rapport à la réalité.
Et cette génération, l'ombre de D'Annunzio se portera sur elle. J'ai cité Malraux, vous parlez beaucoup de Monterland qui en a été un lecteur fervent. Et puis votre livre sur la génération perdue ne se limite pas aux seuls Français et aux seuls Italiens, que les auditeurs le sachent. Il a 50 ans, il arrive en France, parce que il dit oh, « l'Italie c'est vermoulu, c'est un pays aux mains de vieillards ». Enfin, il y a été magnifique, il y a produit une œuvre romanesque, poétique, théâtrale considérable. Mais enfin, c'était un, comment vous dites, un obsédé sensuel et un jouisseur endetté.
Oui, tout à fait. Il a toujours, comme dit l'un de ses intimes, anéanti par les dettes, ses créanciers. Essentiellement, c'est un homme pour qui l'argent ne compte pas, pour qui les aspects matériels comptent très peu. Ses maisons, tout cela, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui l'importe énormément, c'est le grand aroi, c'est la grande vision dans laquelle il peut mettre l'existence. L'existence est une décoration perpétuelle et la femme est au centre de cette décoration. Mais elle est sensuelle dans le sens qu'il faut qu'il n'a pas d'attributs extraordinaires. Voyez la gamme de pseudonymes, une douzaine au moins pour chaque amoureuse. Cela veut dire qu'il va très loin dans la fabulation de son instinct érotique.
Mais enfin, il ne peut pas vivre comme un petit bourgeois.
Vous dites, non, bien sûr.
Il ne pourrait pas vivre dans un appartement comme
non, bien
celui
sûr.
De Pirandello.
Non, non, bien sûr. Non, il a ce côté, même si vous voulez, un peu provincial, bien que c'était à l'origine une bonne famille de province, de toujours montrer qu'il est plus qu'il n'est. Donc ce côté un peu faux princier qu'on lui a tellement reproché. Mais à côté de cela, des générosités certaines.
Donc si j'ai bien compris, il a appauvri ses créanciers, mais ceux-ci réagissent. Il vient en France où il va appauvrir les créanciers français. Il va d'ailleurs habiter au bout d'un moment un très bel hôtel rue Geoffroy Lanier à Paris. Peu auparavant, il a travaillé avec Claude Debussy, Claude de France. Donc c'est le centenaire de la mort en cette année 2018 pour le martyr de Saint-Sébastien, ici avec André Cluytence.
Que serait-il le
Nous vivons dans une époque infâme, sous la tyrannie de la plèbe. Jamais le génie latin n'est tombé si bas. Une grande guerre nationale est la dernière chance de salut qui lui reste. La guerre seulement arrête les peuples abâtardis dans leur déclin.
On a du mal à comprendre cela aujourd'hui, mais expliquez-nous ce rapport déraisonnable entre la France et l'Italie, dont vous êtes un grand praticien, Maurizio Serra, qui fait que D'Annunzio, en 14, appelle l'Italie, qui est encore neutre, à venir rejoindre sa sœur latine, la France.
Oui, il n'y a aucun doute à ce sujet. Il n'a pas été, on l'a parfois écrit, l'artisan de l'intervention en guerre de l'Italie du côté de l'Entente, donc du côté de la France, de l'Angleterre et de la Russie tsariste, mais il a certainement œuvré plus que personne en France pour que cela se fasse. Et son activité a été certainement très généreuse. On a parlé d'argent français qu'il aurait reçu. Il n'y a aucune preuve de ce point de vue. Je pense que c'était vraiment un idéal très fort qui allait au-delà de la latinité. Il allait essentiellement contre les empires périmés tels qu'il les voyait de l'époque du monde d'hier.
L'Autriche, qui est une vieille adversaire de l'Italie, doit payer, puis peut-être payer, si la victoire est obtenue contre elle, de territoires qu'elle n'a pas laissé à l'Italie au moment de l'unification. Alors il va, vous l'avez dit, s'engager du côté italien pendant toute la guerre. Est-ce qu'on peut faire un petit détour par les terrains d'aviation? Alors, vous avez toute une théorie. Les esthètes guerriers sont des passionnés de moteurs. Ils érotisent.
Oui, c'est certain. Ça.
C'est certain.
C'est très fort chez Marinetti et chez les futuristes, l'idée que le rombissement d'un moteur est l'acte sexuel par définition et porte plus loin l'homme par l'énergie, par le mouvement, par la vélocité ou vitesse qu'il ne ferait autrement. Donc, il y a une part de cela. Danuzzi y croit jusqu'à un certain point. Mais certainement, il revoit sa jeunesse dans le besoin d'être toujours à côté des jeunes et donc, par définition, les moteurs, l'aviation, etc.
Alors, le vent héroïque, oui, érotique de la rapidité.
Héroïque et érotique de la rapidité qui ouvre son dernier roman, Forse que si, forse que non. Ouais. En 1910.
Et ça, donc, c'est un roman sur l'aviation?
C'est un roman de l'aviation. Il y a de très belles choses que d'ailleurs, Malraux a gentiment reprises dans l'espoir et dans d'autres œuvres.
Oui, Malraux, chef d'escadrille, peut-être à cause de l'exemple de Danuzzi.
Oui, l'un et l'autre n'étant pas pilote d'ailleurs. Mais dans le cas de Danuzzi, une chose intéressante, c'est que non pilote, il a quand même, et il y a les plans qui le montrent des industries Caproni, contribué à la création de prototypes d'avions.
Alors nous sommes sur un terrain d'aviation pendant la Grande Guerre.
Cuistot, l'inverse pour deux.
Il a son quart, l'aviateur.
Parce qu'il tient.
Ils ont trop de succès avec les filles, ces gars-là. Je tiens pas à choper la vérole. Comment ça va chez les Boches? On doit bien voir de là-haut.
Eh, viens. On va voir ton coucou. Allez, allez, grimpe. Grimpe, je te dis.
Contact!
Contact!
Si je comprends bien, il a plus de deux fois 20 ans et il grimpe avec les jeunes hommes de 20 ans.
Ah oui, oui, bien sûr. Il est observateur. Il a d'ailleurs jamais affirmé d'être pilote, mais ça, sauf une ou deux lettres comme ça, un peu caviardées. Mais pour le reste, il est certainement un homme d'un courage physique impressionnant.
1916, il y a une image que vous cultivez. Gabriele D'Annunzio reçoit dans ses bras, où il va expirer, Jean Roulier. Oui. Un aviateur tombé près de Trieste. Alors le voilà du côté de Trieste, Adriatique. La guerre se termine, l'Italie au final fait partie des vainqueurs, s'ouvrent les négociations de paix, et D'Annunzio prévient les Italiens contre le sourire à 32 dents du président américain Wilson qui ne va pas vouloir leur faire la part qu'ils méritent.
Oui, nous entrons dans un aspect d'histoire qui est un peu pointu, est un peu complexe. Je me limite à dire deux choses. C'est qu'en 14-15, l'entente, donc la France, l'Angleterre et la Russie, ont fait à l'Italie et à ceux qui devaient devenir le royaume des Yougoslaves, enfin donc la Yougoslavie, des promesses qui étaient des promesses contradictoires. Pratiquement en promettant les mêmes terrains, ou en tout cas les mêmes territoires, pardon, aux uns et aux autres. Donc cela était déjà dans une situation très difficile, et au moment des négociations de la paix de Paris, Français et Anglais ont pratiquement délégué aux 14 points de Wilson et à la présence de Wilson de trancher sur un concept, le principe des nationalités, extrêmement discutable et qui n'avait jamais été appliqué auparavant.
Et c'est ainsi que l'Italie ne peut obtenir, comme le souhaitait D'Annunzio, un port au fond d'un golfe de l'Adriatique. Aujourd'hui, c'est un port croate. Vous pouvez dire le nom en croate? Vous ne le savez pas.
J'hésite.
Rijeka. Et ça se disait en italien, Fiume.
Oui,
en italien. Alors qu'est-ce que c'est Fiume, sur quoi il va lancer une expédition à la Garibaldi en septembre 1919 pour en devenir le commandante de Fiume d'Italia?
Oui, alors, il n'aurait pas souhaité l'être. Tout au début, ce qu'il a fait, c'est une épreuve de force. D'ailleurs, pas avec une armée privée, comme on l'a dit. C'était en grande partie soit des volontaires, soit des troupes italiennes qui avaient décidé de le suivre dans cette expédition avec un certain manque d'intérêt de leurs supérieurs. Bon, ce qui a fait penser d'ailleurs qu'à ce moment-là, Danutz était de mèche avec le haut commandement italien pour faire cette opération, ce qui n'était pas le cas. Mais tranchons sur le fond. Sur le fond, le fait est qu'il veut essayer de ramener l'attention sur ce qui, au début, est une petite querelle, disons, adriatique, italo-yougoslave, qui n'a pas été résolue à la table des négociations de la paix, mais qui devient rapidement, à ses yeux, la Ligue des peuples opprimés. C'est-à-dire, Pafium a interposé, il veut créer une forme profonde, publicitaire, si l'on veut, de subversion, et donc qui comprend toutes les régions du monde.
Oui, mais l'idée, c'est dans un premier temps, comme dans un prototype, un laboratoire, de rassembler sur une île, disons que c'est une île, à sa manière, des compagnons, et des compagnons qui ressemblent à cette élite des têtes armées qu'il voudrait un jour voir constituer. Alors, il y a une galerie de portraits dans votre livre chez Grasset sur D'Annunzio, les mousquetaires de D'Annunzio, le Porthos, là, par exemple, il est tout à fait étonnant, là.
Ah, mais il y en a d'extraordinaires. Il y a des Japonais.
Déjà des brigades internationales.
C'est une anticipation des brigades internationales moins meurtrières. Moins meurtrières au sens de ce qu'a été de meurtrier la guerre civile, la guerre civile d'Espagne.
Commisso, le Portos, là, les hommes avaient les yeux clairs comme un don de la mer. Il y a une légère dimension, vous insistez beaucoup là-dessus, homo-érotique.
Ah oui, non, bien sûr, parce qu'il y a une très forte dimension qui est liée à l'image érotique des corps nus d'hommes et de femmes d'ailleurs, et qui va dans ce sens, c'est certain. Mais bon, ça fait partie de l'univers libertaire. D'une certaine mesure, pré-mai 68, ouais, que Flume, veut appliquer.
On pourrait dire tout aussi bien le contraire. C'est autoritaire, dictatorial.
Mais il y a l'autre aspect.
D'Annunzio ne se sent plus. Non.
Oui, mais à côté de cela, il n'a jamais enfreint, par exemple, le césarisme fumain qui existe n'arrive jamais jusqu'à en faire une véritable dictature. Il y a des organes de la ville ou de l'île, comme le conseil municipal, le conseil, sur lesquels il n'intervient pas.
Et ça dure 500 jours.
Et ça dure près de 500 jours, oui.
Et c'est observé de très près. Par l'extérieur, c'était Albert Londres.
Ah, mais c'est la correspondance des chancelleries internationales est extraordinaire. C'est un cas, ça devient un cas international. Ce qu'il souhaitait d'ailleurs.
Et quand même, peu à peu, votre gouvernement, enfin, je parle comme un diplomate italien, plein de prudence à l'époque, Giolitti, qui est très pragmatique, commence à être de plus en plus agacé par cette épine dans sa chaussure. Et D'Annunzio refuse tout compromis.
Il préfère
la faillite noble la négociation.
Noble, je ne sais pas. Là, c'est le moment où il s'est enferré quand même. Il s'est enferré dans un esthétisme guerrier complètement passéiste et qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Les deux gouvernements, l'italien et le yougoslave, avaient finalement tranché sur la question avec un accord de compromis raisonnable. Mais l'accord de compromis raisonnable impliquait son éviction et lui n'en voulait pas savoir. Alors, il y a vraiment ce moment un peu absurde du Noël de sang qui est quand même absurde.
Noël de sang.
Et qui fait 30 morts. Noël de sang, 1919. 3 jours de bataille rangée.
Il partira, mais son dernier geste sera du balcon, j'imagine, d'où il parlait régulièrement, de rendre hommage à ses compagnonnage très important, morts.
Habitants de Fiume, j'ai voulu la guerre et je l'ai faite sans repos. Ayant appelé le peuple à combattre, j'ai pris au feu la place la plus dangereuse. Nous avons tous souffert. Nous souffrons tous. Je préfère la plus dure catastrophe au spectacle des frères dressés contre les frères. Où il y a les Fiumains, je suis chez moi. Et je remets mes pouvoirs au Conseil national. J'ai combattu pour un idéal. Je vous laisse ceux qui se sont battus pour leur maison. Et quant à ceux qui ont fait le sacrifice suprême, je vous remets leur mémoire.
Voilà, je vous laisse ceux qui ont combattu seulement pour leur maison. Il imaginera plus tard, dans une propriété dont il sera le locataire propriétaire, on en parlera tout à l'heure, de faire un mémorial. Et alors, c'est très étrange, le mémorial qu'il pense construire.
Ah ben, il a été construit. Il a été construit beaucoup plus tard parce que les travaux du Vittoriale se sont étagés sur plusieurs époques. Et donc, une partie a été terminée après la mort de D'Annunzio, encore dans les années 50. Mais non seulement il y a le mausolée qui devait être le mausolée aux victimes de la répression et même aux victimes de la guerre, amis et ennemis et adversaires confondus. Ah oui,
confondu.
Ça c'était tout à fait. Mais, jusqu'aux années 60, j'en ai connu les derniers, disons fin des années 60, il y a eu la garde d'honneur des anciens légionnaires qui allaient régulièrement devant le mausolée. C'est quand même quelque chose qui a été très senti dans une certaine mouvance.
Est-ce que vous pouvez essayer d'approfondir ce mot de compagnonnage qui dépasse donc l'appartenance à un camp ou à un autre ? Et c'est une expression qu'on va retrouver tout au long du XXe siècle. Le gaullisme, c'est du compagnonnage.
Eh bien, il y a un compagnonnage qui dépasse les clivages de classe et de nationalité. D'une certaine mesure, nous parlions tout à l'heure des brigades internationales, c'en est un exemple. C'est essentiellement ce qui unit les hommes et les femmes, bien sûr, devant un adversaire commun qui est le monde vieux, le monde pourri, le monde vermoulu, le monde dont on veut plus.
Il va quand même offrir les marrons du feu à Mussolini, parce que Mussolini va tirer parti de l'aventure de Fiume.
D'Annunzio était un grand poète, était un homme d'action véritable, et j'insiste sur ce terme, c'est pas du tout du point de vue de la frime de son action, mais c'était un piètre politicien, c'était un piètre homme politique. Mussolini l'a manœuvré, mais je me permets de rappeler que la marche sur Rome, tout le monde connaît la date, le 28 octobre 22, est anticipée pour éviter que le 4 novembre 22, il y ait la commémoration tout parti confondu de l'anniversaire de la guerre, présidée par le roi et dont l'orateur serait D'Annunzio.
Monsieur l'ambassadeur, je suis dans une situation diplomatique un peu compliquée. Vous ne voulez pas que je passe l'hymne de la jeunesse fasciste. Audrey Ripouille, notre réalisatrice, dit qu'il faut qu'il y ait de la belle musique dans cette émission.
J'ai exprimé ma dissension, donc
juste 30 secondes, 45 secondes, parce que cette chanson, qui date de 1909, dans sa partition non modifiée, elle a été modifiée par les fascistes, elle a été chantée à Fiume, de même qu'on a vu D'Annunzio esquisser le geste du bras droit qui sera repris par les fascistes. Les paroles, côté fasciste, hein, jeunesse, printemps de beauté, ton chant va et claque. Alors, exprimez vos dissensions.
Il a quand même
été utilisé par Mussolini.
Mussolini a repris beaucoup des attributs qui pouvaient lui être utiles. C'était un homme politique chevronné, c'était, du moins dans une première partie de sa triste carrière, c'était un homme qui savait manipuler et utiliser ce qui lui servait, où il le prenait, que ce soit bolchevique, fiumain ou n'importe quoi. Donc, de ce point de vue-là, comme la jeunesse fiumaine était encore très populaire, le mythe était encore très fort dans l'Italie d'avant 22, et bon, il l'a repris.
Il a utilisé D'Annunzio, toujours endetté dans sa vaste demeure qu'on va évoquer maintenant, Vittoriale, qui n'est pas seulement un mémorial, l'a vendu à l'État. Mussolini l'a entretenu à tous les sens du mot. Description de Vittoriale.
Au nord de l'Italie, le lac de Garde. Dominant Gardone et le lac, le domaine du Vittoriale. Génie et volupté, voilà le slogan du poète. au seuil de sa chambre à coucher, l'amour cessait d'être passion pour devenir rite, les livres de chevet restaient Dante et Shakespeare. Il est vrai que dans la bibliothèque entièrement française fleurissaient Baudelaire, Verlaine et Flaubert. Déjà dans la chambre, la profusion des objets, des œuvres d'art, des livres nous surprend. Dans la salle de bain qui la jouxte, nous touchons au monde du délire. À peine si l'on peut distinguer une coiffeuse, une baignoire et un lavabo derrière quelques 2300 objets. Bric-à-brac fantastique jaillit de l'imagination d'un antiquaire fétichiste.
Bric-à-brac d'antiquaire, dit l'émission de télévision Bonnes Adresses du passé. Et vous, vous décrivez un homme qui est là, quasi enfermé, avec son passé extrêmement présent. Comment, quand on a trois fois 20 ans, continuer à vouloir en paraître 20?
Ah bah ça c'est une obsession que beaucoup d'êtres hommes et femmes ont, ce n'est pas essentiel de Dan Lundsio.
Mais c'est pas seulement une question d'apparence et de maquillage.
Non, c'est une question, je pense, toujours de se ressourcer en quelque chose de nouveau, et à un certain moment, la veine politique terminée, il le sait, c'est un grand réaliste, la veine lyrique... pas évident, même s'il y aura un sursaut avec le livre secret. Donc, c'est l'éternité du verbe dans la pierre. Permettez-moi d'observer qu'il n'a pas vendu le Vittoriale à l'Italie. Il en a fait don. Il avait acheté avec, évidemment, une série de prêts et de banques, mais il en a fait don.
Oui, j'avais oublié que c'était un homme couvert de dettes. Le livre secret, vous dites que c'est peut-être son plus beau livre, mais il doit y avoir du secret dans une mise en scène de son existence de bout en bout comme la sienne.
Non, je pense que justement, le livre secret est le moment où il découvre que lui qui a été très public, au fond, cas rare pour l'époque bourgeoise où il a commencé de la fin du 19e siècle, il a beaucoup mis de panache, beaucoup mis d'apparence dans son travail, il a besoin maintenant de se fermer, de se cloisonner, de distiller ce qui lui reste à dire. C'est quelque chose qui peut faire penser aux mémoires d'outre-tombe, avec une seule différence qui est majeure, c'est que le passé n'a jamais intéressé Dan Lundsio, qui est un homme du présent permanent.
Enfin, les mémoires d'outre-tombe se terminent par une méditation sur l'avenir.
Bien sûr.
Justement, l'avenir de Fiume, l'avenir de Dan Lundsio, vous parlez de Malraux beaucoup, vous parlez de Monterland, c'est un moment de fièvre qui en annonce d'autres.
Oui. Parce que il y a certainement chez la génération suivante une sorte de nostalgie, de désir d'avoir cette vie si belle et forte, même si elle s'est terminée par un échec, que les Dan Lundsio, et pas seulement que lui, les Lawrence Larrabee et autres, ont eu. Donc c'est vraiment encore l'idée d'avoir raté le moment central de l'histoire de l'Europe.
Alors, vous avez donné envie de lire Dan Lundsio chez Grasset pour donner envie de lire Une génération perdue, un autre livre plus ancien au Seuil. Citez deux ou trois autres noms qui fassent image pour nos auditeurs. De membres de cette génération perdue.
Je pense que dans la génération des années 30, nous devons redécouvrir beaucoup de ces auteurs, des Français, des Anglais, des Allemands, des Italiens, et quel qu'ait été leur choix, leur rôle plus ou moins guerrier, il est certain que l'esthétisme les a conduits avec beaucoup de cohérence jusqu'au but, jusqu'à la catastrophe. J'en cite un seul, bien connu en France et que j'aime énormément, qui s'appelle Klaus Mann.
Merci à vous Mauricio Serra. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, avec à la technique Ludovic Asselot, à la réalisation Audrey Ripouille. Alors on a annoncé, mais nos auditeurs n'étaient peut-être pas à l'antenne, à 13h30, votre émission spéciale, Mathieu Vidard.
Oui, Jean, ce sera bien sûr un hommage rendu à l'astrophysicien Stephen Hawking, donc qui est décédé cette nuit à l'âge de 76 ans.
Donc une tête au carré qui lui est dédiée dans un instant.